Le phare de l'Espiguette vient d'être rénové et c'est un écolieu qu'on peut visiter. Je suis en compagnie de Florine.
On se dirige sur la terrasse du phare. Donc c'est une délimitation du jardin. Cette délimitation, elle est d'origine. Hein. Donc il faut s'imaginer que toute la rénovation du site, ben, l'idée c'est de garder une identité. On est sur un site qui est un monument classé. Hein. Donc l'objectif, c'est de maintenir cette identité au maximum et de faire vivre ce lieu. De faire vivre cette histoire d'un territoire, l'histoire du Gros-du-Roi, l'histoire des marins, l'histoire de la pêche. Et voilà, donc l'objectif, c'est de vous faire partager la vie de ce site.
Donc on est accueillis donc, dans un jardin qui n'est pas vraiment vert. Hein. Et il y a comme des plots. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait des photos.
Exactement. Donc là, c'est une première envie de vous partager. Pourquoi est-ce qu'il y a une construction de phare? Donc on a partagé des histoires de naufrages, des histoires de cette pointe de l'Espiguette qu'on appelait à un moment la pointe des sinistres. Parce que, oui, parce que justement, il y a eu des sinistres, il y a eu des naufrages, il y a eu des marins noyés. Et donc c'est pour vous donner envie ben, de rentrer dans ce musée, de participer à cette visite guidée en haut de cette terrasse du phare.
Donc là, j'aperçois le phare au milieu et de deux côtés comme deux bras de taille identique. Et sur une des portes, c'est marqué « Entrée musée ». Donc j'imagine que c'est par là qu'il faut qu'on aille.
Exactement. L'entrée musée, donc dans un des logements de gardiens. Et donc on va déambuler dans les différentes pièces pour avoir une connaissance à la fois sur le patrimoine naturel, donc le massif du Nerf, et puis sur la vie de ces gardiens.
Nous pénétrons dans le musée. Ah, on sent tout de suite une ambiance très sonore.
Exactement. Il y a une ambiance sonore dans les couloirs qui vous mettent un petit peu dans l'ambiance, donc on entend des chants, des bruits un peu de la nature, des vagues à certains moments, et voilà, l'objectif c'est de vous mettre dans cette ambiance un peu marin.
Et là je vois logement des gardiens. Le gardien avait un logement d'un côté et de l'autre ?
Il y avait deux familles de gardiens qui vivaient. On est sur un phare qui a justement un fonctionnement avec deux familles entières. Dans certains phares en mer, il n'y avait seulement que les gardiens, il n'y avait pas leur famille. Ici, sur les phares en terre, on appelle ça comme ça, eh bien, ils pouvaient vivre avec leur famille, même si c'était compliqué, mais ils pouvaient quand même vivre avec leurs femmes et leurs enfants.
Waouh ! Et il y a eu des familles entières ici.
Oui, il y a eu même un gardien avec 7 enfants. Et à un moment dans la muséographie, il explique sa difficulté à scolariser ses enfants au Gros-du-Roi. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais bon, c'est facile pour nous de venir à l'Espiguette quand on est véhiculé. Mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et en cas de tempête, en cas d'ensablement, etc., et ben, les enfants arrivaient en retard ou ne pouvaient pas accéder jusqu'à l'école. Donc c'était très très compliqué quand même de vivre ici à l'Espiguette.
Donc on va pénétrer dans la première salle. Indicateur, témoin, phare de l'Espiguette et phare de Camargue.
Exactement. Donc là, on se situe sur une pièce qui va nous expliquer un petit peu l'ensablement et puis la vie du delta. Parce qu'on est les pieds dans un delta. C'est aussi pour ça que la plage de l'Espiguette est aussi importante, c'est que le Rhône nous a apporté du sable, il y a une sédimentation qui est très forte, et le sable vient s'accumuler sur cette plage de l'Espiguette. C'est ce qu'on appelle l'accrétion. C'est pour ça que, en fait, ce phare, il a été construit à 150 mètres de la mer, il est aujourd'hui à plus de 700 mètres. Donc ça veut dire que la plage a énormément grossi, c'est cette définition d'accrétion. Dans cette première pièce, on voit des cartes sur l'érosion et la sédimentation, donc et l'accrétion. On aperçoit par exemple que entre les Saintes-Maries de la Mer et le Gros-du-Roi, il y a un fort courant marin qui part des Saintes et qui va jusqu'au Gros-du-Roi. Et donc il y a toute une zone d'érosion entre les Saintes et le bout de l'Espiguette, et ensuite une zone d'accrétion, donc devant le phare et devant le Gros-du-Roi.
D'accord.
Avec la présentation des autres phares du territoire, puisqu'il fallait indiquer ces bancs de sable. Hein. Ces bancs de sable étaient extrêmement dangereux pour la vie maritime, pour ces marins, et donc il fallait signaler cette sédimentation, d'où l'explication du phare de la Gachole, le phare de Beauduc et phare Amand.
Le phare de la Gachole a aussi comme deux logements de part et d'autre. Il ressemble à celui de l'Espiguette.
Oui, il ressemble, il est un petit peu moins haut, mais il a un petit peu la même architecture.
Celui de Beauduc, le logement est derrière le phare, il ne l'entoure pas.
Exactement. Et puis, il a cette forme ronde.
Oui.
Vous avez des phares qui sont carrés, vous avez des phares qui sont ronds.
Et
un phare carré, c'est forcément un phare qui fait moins de 30 mètres de haut. D'accord ? Et un phare de plus de 30 mètres de haut, il n'y a pas le choix. Il a forcément une forme ronde.
Pourquoi ?
À cause de la prise au vent. Hein, pour que le vent circule autour et n'abîme pas l'ouvrage. Les phares de moins de 30 mètres, les architectes avaient le choix. Ils pouvaient faire une tour carrée ou une tour ronde. C'était souvent moins cher de faire une tour carrée.
Ah oui, mais je m'en suis doutée parce que souvent des choix comme ça, il y a une cohérence économique aussi.
Oui, complètement. On aperçoit aussi dans cette pièce que le phare de l'Espiguette, une photo de 1900 nous montre que ce phare a été posé sur la plage avec une vue sur la mer. On n'a plus du tout ce sentiment-là. Aujourd'hui, quand on se retourne autour du phare de l'Espiguette, on a une vue sur les pins et sur ces dunes. Donc on s'aperçoit vraiment que le milieu naturel a bougé. On est sur un trait de côte qui est dynamique, un trait de côte qui bouge et des milieux autour environnementaux qui sont dynamiques.
Alors, ce qui est excellent, c'est qu'il y a aussi une autre tour avec un télégraphe Graff, je pense. Hein,
oui, c'est ça. Ben, c'était le premier sémaphore, la première version du sémaphore.
Oh, d'accord.
Voilà. Donc, on avait très souvent un phare et à côté un sémaphore. Un phare signal et un sémaphore surveille.
Le terme sémaphore est donc un terme générique, comme le terme phare.
Exactement.
Eh bien, je vais me coucher moins bête. Je pense que les auditeurs aussi. Donc ça, c'est la première pièce qui correspondait à quoi ? Leur cuisine, c'était quoi ?
Alors ça, c'était une chambre.
Elle n'est pas bien grande, hein ?
Non, ce n'est pas très grand, en effet.
Ça devait être quand même un peu froid l'hiver, non ?
Ah ouais, oui, c'était très froid, très humide. Et c'est encore un petit peu le cas au niveau de l'humidité, au niveau des remontées de sel qui, quand même, mettaient à mal les bâtiments.
On va aller dans la seconde salle. Donc une salle qui donne avec une fenêtre sur la cour, une cour qui est pavée, qui a l'air vachement sympa. Et là, on a d'autres panneaux.
Exactement. Là, on est sur une pièce dédiée à l'architecture du phare. Ce que je trouve très marrant dans cette pièce, c'est donc à la fois les mémoires de chantier qui sont extrêmement intéressantes. On observe que sur les photos, on avait des rails de chemin de fer, donc ça veut dire qu'on pensait amener les matériaux par la terre, sauf qu'en fait, il y avait des tempêtes de sable, il y avait de l'ensablement qui détruisait, en fait, qui recouvrait ces rails, donc c'était très très difficile de trouver cette solution. Donc, ils ont inventé une espèce de ponton en bois qui permettait de faire venir les pierres par bateau. Donc les pierres d'angle étaient de Frontignan, taillées à 7 et arrivaient par bateau. Et parfois, ils prenaient des bancs de sable, ces bateaux, et ils pouvaient s'échouer. Donc c'était un chantier qui était extrêmement difficile. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est des plans d'architecture. Mmh. En fait, le projet primitif du phare, c'était un phare qui était moins haut que ça. Il faut savoir qu'en fait, dans l'histoire de ce phare, l'architecte est tombé amoureux de la fille du constructeur. Et en fait, pour pouvoir faire durer ce chantier, il a revu les plans et il a monté encore plus haut ce phare. Un amour qui n'a jamais pu être concrétisé, tout simplement parce qu'il n'était pas de la même religion et que le constructeur s'y est fortement opposé. Donc il y a eu quand même des histoires humaines autour de ce chantier.
Mais finalement, le phare a été plus haut et du coup, il est reconnu comme phare parce que s'il avait été à la hauteur initiale, peut-être qu'il ne serait pas suffisamment haut.
Alors, il aurait été de 20 mètres, donc il aurait pu être défini phare, mais voilà, les 7 mètres supplémentaires n'étaient peut-être pas forcément nécessaires.
C'est peut-être ça qui permet aussi à ce phare d'éclairer plus loin.
Exactement, d'avoir une portée lumineuse de 44 km.
Eh bien, ça, c'était la deuxième pièce. C'est une autre chambre ou qu'est-ce que ça correspond ?
Exactement, une autre chambre et on a la pièce à vivre à côté avec la cuisine.
On va y jeter un coup d'œil à la pièce à vivre, mais on va bientôt se quitter pour se retrouver demain. Donc, cette pièce à vivre, elle fait toute la largeur, finalement, et on a d'autres explications. On entend même du bruit. Et on se donne rendez-vous demain, Florinesco, toujours depuis le phare de l'Espiguette, et nous sommes en train de déambuler dans le musée.
À demain.